Soyez les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Je crois que nous sommes rassemblés aujourd'hui de 16 différentes nations en cet endroit, au nom du Seigneur, rassemblés pour écouter sa parole et pour croire et pour nous orienter par sa parole et nous laisser enseigner et instruire, car c'est pour ces choses-là que la parole nous a été accordée. Et nous saluons aussi tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, qui bénisse son peuple sur toute la terre. Nous avons manqué hier de transmettre une salutation particulière de nos frères et sœurs de la Roumanie, de l'église de Mora Dora, du frère Dibi. Que Dieu le Seigneur bénisse le frère et bénisse l'église. Nous avons aujourd'hui 12, nous avons reçu 12 mails et aussi des appels téléphoniques. Il y a un frère du Congo qui m'a envoyé une feuille avec des salutations des différentes villes et églises. Et nous avons aussi des appels téléphoniques que nous avons eus du frère Michel de Johannesburg, du frère Joseph de Kinshasa, du frère Paul Nyagi de Nairobi. Le frère Schmidt a ramené des salutations de Moscou, l'Ukraine, de Karaganda. C'est simplement merveilleux de ce que tous peuvent être en ligne et suivre. Et nous avons toujours de nouveau dit que c'est important de saisir la liaison à l'action de Dieu maintenant. C'était la chose la plus importante dans tous les différents âges, dans toutes les différentes âges et dans toutes les différentes générations. C'était important de ne pas manquer la liaison de l'action de Dieu pour pouvoir y prendre part à ce que Dieu fait sur terre et a fait sur terre. Et dans la lettre circulaire d'octobre, nous avons insisté en disant que le Seigneur a toujours continué à agir alors que le ministère de Moïse fut couronné et vint à sa fin. Dieu, lui, il a continué à agir. Nous avons aussi exposé de la manière avec laquelle le Seigneur a béni le ministère de Jean-Baptiste et a ramené, a retourné le cœur des enfants de Dieu de nouveau dans l'état primitif, dans l'état correct pour qu'ils puissent croire comme le dit les Écritures et aussi comme la parole le dit. Préparer un peuple au Seigneur bien disposé. Et cela a eu lieu avec chaque ministère que le Seigneur, par sa grâce, a accordé. C'était pour conduire au Seigneur un peuple bien disposé. Aussi avec le ministère de Paul, nous l'avons aussi exposé. Il faut que nous puissions comprendre que Dieu l'avait utilisé en tant que l'écrivain principal du Nouveau Testament. Et chaque sujet, que l'Église, que les frères, que les sœurs, que les maris, que les femmes, que les enfants, chaque sujet qui était nécessaire pour chacun a été écrit. Et tous peuvent lire ce que Dieu aussi à chacun individuellement a à dire. C'est très important aussi de ce que Dieu a conservé sa parole pour nous. Celui qui lit la manière avec laquelle le Nouveau Testament a existé, qui a ici et là envoyé les épîtres, les lettres, et comment est-ce qu'elles ont été lues dans les églises, dans l'assemblée, avant qu'elles furent rassemblées, un temps est passé. Mais Dieu, lui, il a pris soin que sa parole nous soit conservée. Et que ainsi, nous pouvons avoir par elle et trouver en elle l'orientation spirituelle à suivre. Et ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Car tous ont la Bible. Tous ont la Bible dans le christianisme. Mais la question est la suivante. À qui est-ce que Dieu, par sa parole, peut parler? À qui? Est-ce que la parole écrite est devenue une parole vivante, vivifiée, révélée, esprit et vie? Ou est-ce que l'esprit peut agir pour nous conduire dans toute la vérité? Et si nous allons dans Genèse chapitre 1, l'esprit de Dieu planait sur les eaux et ensuite Dieu. Dit, Dieu parla. Si l'esprit ne plane pas sur l'église, n'est pas dans l'église, la meilleure prédication ne sert à rien. Il faut que l'esprit de Dieu soit présent. Et c'est le jour de la Pentecôte qu'il fut déversé. Et il demeure depuis la Pentecôte dans l'église jusqu'à que nous atteignions l'achèvement de l'œuvre de Dieu, la perfection, et que nous soyons enlevés vers le Seigneur. À chaque fois, nous avons aussi tourné un regard à Israël. Nous allons aujourd'hui le faire seulement de manière très brève. Mais c'est la promesse principale de notre Seigneur. Notre Seigneur a parlé de guerre et de cris de guerre, de famine et de temps de disette, de l'injustice qui s'accroîtra, de faux prophètes qui apparaîtront et qui conduiront beaucoup dans l'erreur et qui séduiront beaucoup. Mais ensuite, suivi la promesse principale. Quand vous verrez que le figuier devient tendre, alors quand vous verrez cela, alors vous saurez que votre rédemption est proche. Et bien-aimés frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans le pays rassemblés dans lequel le plus grand désastre a été apporté sur le peuple de Dieu. Et je pensais un peu à cela hier. Demain, c'est le jour de la réunification de l'Allemagne. En fait, il devait avoir lieu le 9 novembre. Le 9 novembre 1938 était un jour particulier. 1400 synagogues et maisons et bâtiments juifs ont été brûlés. Et tout cela était le Troisième Reich. Pourquoi Troisième Reich? Pourquoi est-ce que le prophète Daniel, ensuite dans le chapitre 7, parle du Quatrième Empire? Du Quatrième Empire qui s'emparera de toute la terre, Encore rapidement, le 1er avril 1933, la première annonce a été faite. Allemands, ne faites pas des achats chez les Juifs. 6 millions de Juifs ont été massacrés. Et tout cela a eu lieu dans l'époque du Troisième Reich. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui sommes ici aujourd'hui rassemblés, nous avons la grâce de pouvoir remercier le Seigneur, car ça a été l'un des points que j'ai demandé à Frère Branham. Ma question avait été adressée à lui, Frère Branham, est-ce qu'une malédiction est sur l'Allemagne à cause de ce qui a été fait aux Juifs? Cette question brûlait sur mon cœur, parce que après 1945, tous les réunions de prière, les cultes de prière, les cellules de prière, que ce soit dans les églises ou dans les églises libres, tous avaient leur réunion de prière et ont demandé pardon à Dieu. Les croyants ont demandé pardon à Dieu. Et cela en se référant à ce qui a été fait aux Juifs dans leur pays. Mon père a reçu des Juifs, a caché des Juifs. Et le maire a intervenu pour qu'il soit protégé. Et je posais la question à Frère Branham, est-ce qu'une malédiction est sur notre pays? Et une autre question avait été posée à Frère Branham. Et sa réponse a été, elle était bref, très claire. Il a dit, Frère Frank, sur l'Allemagne se repose aucune malédiction. Dieu va appeler à rendre compte ceux qui en sont coupables. Et c'est ainsi que Dieu ne va pas rendre responsable tout un peuple pour ce que des personnes ont fait et produit. Pour moi, pour nous, je le répète encore une fois, le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu et c'est seulement à cause de nous que Dieu a dû aveugler une partie d'eux pour que nos yeux soient ouverts et que l'olivier sauvage, la branche de l'olivier sauvage, soit greffée dans l'olivier naturel. Dieu a un dessein du salut qu'il exécute. Et ce qui me touche encore et m'occupe encore, c'est alors que je pensais à cette histoire. Et maintenant, s'il vous plaît, on l'écoute toujours de nouveau, que tout le monde arabe n'accepte plus de négociations avec Israël, comme autrefois il a été dit. N'achetez pas, ne faites pas des achats, ne faites pas d'achats chez les Juifs. C'est ainsi que maintenant, cet esprit-là est propagé partout, est partout, et cela pour que Israël soit isolé du monde. J'ai avec moi la carte de la région là-bas, d'Israël et de tous les pays arabes aux alentours. Les limites du monde arabe sont 950 fois plus grandes que la petite Israël, qu'on ne pourrait même pas voir ici si on ne la pointe pas d'un point rouge. Et ce petit pays, ils veulent malgré tout le diviser, le partager. Et ici aussi, les Écritures s'accomplissent, que Dieu va appeler à rendre compte ceux qui ont divisé son pays. Mais voilà ce que nous pourrions dire aujourd'hui concernant Israël. Nous bénissons Israël. Et cela au nom du Seigneur. Et nous savons que l'heure arrive où, tel que Paul l'a dit, quand la totalité des nations sera entrée dans l'Église, alors Israël, dans sa totalité, sera sauvé. Car de Sion, le Sauveur viendra. Tout est écrit à l'avance dans ce saint, précieux livre. Et nous sommes simplement reconnaissants de tout notre cœur, reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé la grâce de vivre maintenant, d'avoir part maintenant à ce que Dieu fait dans le présent, avec cette mention du ministère de Frère Branham. Je voudrais simplement dire, Dieu devait accomplir cette promesse parce que il veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il l'a promis. Il devait envoyer un prophète et cela à la fin du temps du salut, du temps de la grâce, cela avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel arrive et que le soleil perde son éclat et que la lune se transforme en sang. Et c'est pour cette raison que l'ordre missionnaire, c'est ainsi qu'on pourrait l'appeler, de la bouche de notre Seigneur adressé à notre frère, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Dieu m'a accordé ce grand privilège d'être témoin oculaire et de voir de mes propres yeux, d'entendre mes propres oreilles ces choses. J'estime de tout mon cœur ces choses, mais lié à cela, il y a aussi une grande responsabilité qui est liée, c'est-à-dire, dans sa forme originale, transmettre la sainte et précieuse parole de Dieu, car la parole de Dieu seule produira l'effet pour lequel elle est envoyée. Il n'est pas écrit ce que le prophète produira comme effet, non, mais c'est la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur, c'est elle qui ne reviendra pas sans effet à lui, si ce n'est qu'elle ait produit et accompli ses desseins, accompli sa volonté. Pas l'homme de Dieu, pas un prophète, pas un apôtre, mais la parole de Dieu que nous portons produira aussi dans ce temps dans lequel nous sommes, produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et là, nous revenons à ce point. Nous lisons simplement ces versets, ces différents versets bibliques qui parlent du retour de Jésus-Christ. Ensuite, de l'appel à sortir, de la séparation et de la préparation des vrais croyants. Nous parlons du fondement sur lequel nous sommes nouvellement fondés, comme Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, l'a écrit. J'ai placé le fondement auprès de vous. Personne d'autre peut fonder. Faut placer un autre fondement en dehors de celui qui a été fondé, qui a été placé. Et Dieu nous a ramenés sur ce fondement, nous a ramenés sur ce fondement antique. Et il dit encore aujourd'hui, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prouveront pas contre elle. La promesse de Jean 14 demeure valable et nous nous réjouissons de ce que le Seigneur reviendra tel qu'il l'a promis. Lisons cela pour que tous puissent savoir que c'est écrit comme ça. Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. croyez en Dieu et croyez en moi. Que Dieu bénisse tous ceux qui traduisent. Le verset 2 maintenant. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le verset 3. Et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai. Alléluia. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une annonce très claire, toi, compréhension, on n'a pas besoin d'expliquer quelque chose. Dans 2 Jean, l'apôtre et l'homme de Dieu a montré ce qui va se passer lors du retour du Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean chapitre 2, verset 28.
Damit wir, wenn sich offenbart, freudige Zuversicht.
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 1 Jean 2, verset 28. Ici, je dois retenir mes larmes et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Que nous ne soyons pas obligés de nous tenir devant une porte déjà fermée et venir trop tard et être obligés de frapper et de dire « Seigneur, ouvre-nous. » Donc, la prédication qui a lieu, qui retentit maintenant, est préparée pour ceux et adressée à ceux qui seront préparés, à ceux qui suivent tout le chemin de la foi et de l'obéissance avec le Seigneur, qui consacrent leur vie au Seigneur, à Dieu, et qui considèrent la parole comme une lumière sur leur sentier et qui prêtent l'oreille, qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église et à dire maintenant. Pour que vous ayez, comme il est écrit ici dans 1 Jean 2, verset 28, pour que nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloigné de lui. Qu'est-ce que tu veux, bien-aimé sœur, bien-aimé frère? Où est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu veux te trouver lors du retour du Seigneur? Sûrement, tu veux compter au nombre de ceux tels qu'il est écrit dans Matthieu 25, au verset 10, celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces et les portes se sont fermées. Pourquoi est-ce que, avec beaucoup de larmes, après l'ensevelissement de frère Branham et après le retour, pourquoi est-ce qu'avec beaucoup de larmes, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je voudrais revoir tous ceux qui écouteront ta parole de ma bouche et qui la croient. Je voudrais les revoir tous lors de l'enlèvement. Tous ceux qui ont entendu et qui écoutent ta parole de ma bouche et qui la croient. Je veux les revoir tous le jour du jugement. Et je le crois. que tous vous avez compris que ce n'est pas un frère Branham ou bien un frère Frank ou bien un frère quelconque qui a quelque chose à nous dire et qui avait quelque chose à nous dire. Non, mais que c'est Dieu qui par sa parole parle avec nous. Ce n'est pas un frère qui a quelque chose à dire. Et que les grandes heures merveilleuses que Dieu nous accorde à écouter le dessein du salut de notre Dieu sont précieuses et nécessaires pour notre préparation. Recevons ce verset dans notre cœur et disons-le, on n'a pas besoin de le dire à haute voix, mais dites-le dans votre cœur. Bien-aimé Seigneur, je voudrais appartenir à ceux, je voudrais compter au nombre de ceux qui seront prêts pour aller avec toi au festin des noces. Pas à ceux qui seront déçus et qui devront frapper à la porte fermée parce qu'ils seront trouvés éloignés. On ne peut pas s'imaginer quel désespoir, quelle détresse viendront sur tous ceux qui réellement viendront trop tard, seront trouvés éloignés et confus et devront frapper à une porte fermée alors que l'enlèvement aura déjà eu lieu. Et là, nous pensons à la parole d'Apocalypse 3. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Aujourd'hui, il se tient devant ta porte et devant ta porte, la porte de ton cœur et la porte de mon cœur. Et tous ceux qui entendent maintenant sa voix et ouvrent la porte de leur cœur, c'est à eux qu'il vient déjà maintenant et tient le souper avec eux, établit sa demeure dans leur cœur. Et tous ceux qui maintenant n'écoutent pas sa voix et qui n'entendent pas le Seigneur frapper à la porte de leur cœur, c'est là qu'il veut entrer, dans le cœur. À leur tour, ils frapperont et ce sera trop tard. Nous voulons comprendre ces choses de tout notre cœur et dire encore au Seigneur, Seigneur, que par ta grâce, je puisse appartenir au troupeau des vainqueurs, aux prémices qui, lors de ton retour, sera prêt pour entrer avec toi dans le festin des noces. Et que ça, c'est notre désir à tous. Dites Amen. Amen. C'est pour cette raison que nous venons de loin et de près. De loin et de près. Et c'est pour cette raison que le message divin retentit le dernier appel dans le monde entier. Dans 1 Jean, le chapitre 3, nous lisons 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous ne portons pas seulement le nom d'enfant de Dieu. Nous ne disons pas seulement que nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes réellement. Réellement. Ce n'est pas un nom que nous portons. Nous sommes nés d'en haut, nés de nouveau pour une espérance vivante. Et c'est ainsi que nous sommes, par la grâce de Dieu, devenus enfants de Dieu. Recevons ces choses dans notre cœur. Que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes aussi. Et nous le sommes aussi. Tu l'es, pas seulement être appelé, mais l'être. Ensuite, cela continue. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Est-ce que nous avons reconnu dans cette ville, dans ce pays, dans une église, ou bien dans une autre église, l'église libre, avons-nous trouvé? Non. L'église de Jésus-Christ n'est pas à trouver dans une religion. Elle est les élus, constituée des élus, qui sont sortis, qui croient la parole de l'heure et dans toute la fidélité suivre le Seigneur et sa parole, et qui ne consulte pas la chair et le sang, parce qu'ils ont écouté la voix du Seigneur lui-même. Et au verset 2 de 1 Jean 3, encore ici l'insistance est mise sur cela. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Maintenant arrive la certitude bénie. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le ferons tel qu'il est. Ça, c'est le plein salut. Ça, c'est le plein évangile. Ici, nous voyons le but à atteindre, de lui être semblable, lui, le Rédempteur. Il est devenu semblable à nous dans son corps de chair, trouvé comme un enfant, comme un homme. Et voilà, il a laissé sa vie pour nous, donné sa vie pour nous, pour que, dans le jour du retour de notre Seigneur, nous soyons transformés à son image, et ainsi, dans toute éternité, en tant que fils et filles de Dieu, être pour toujours auprès du Seigneur. Mais maintenant, il y a un contenu très important au verset 3. Quiconque, donc sans exception, hein, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Une parole très importante. Quiconque a cette espérance en lui, porte cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles du Seigneur, c'est écrit déjà dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de paroles qui pourraient aussi ici être lues et ajoutées. Comme chaque verset est précieux. Pas seulement être enfant de Dieu, ou bien être appelé enfant de Dieu, mais nous le sommes réellement. Et pas seulement avoir l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ et être transformé dans son corps terrestre et recevoir un corps de résurrection pour être pour toujours auprès du Seigneur, un corps immortel. Nous regardons aux dégâts qui a eu lieu dans le jardin d'Éden, mais qui a été, nous regardons à ce dégât qui a été complètement réparé. La chute a été réparée. Et recevons dans notre cœur le verset 3. Quiconque, pas plusieurs ou bien quelques-uns, non, quiconque, tous ceux qui ont cette espérance, chaque sœur, chaque frère qui a cette espérance en lui, quiconque, tous, quiconque, sans exception de personne, qui met son espérance en lui, se purifie, pas comme il veut, mais comme lui-même est pur. Quelque chose de puissant. 1 Corinthiens, chapitre 15, ici, nous avons la description de ce qui aura lieu lors du retour du Seigneur. Si des frères, par exemple, disent que le Seigneur est déjà revenu, alors on n'ose même pas mentionner toutes ces idioties qui sont crues. Mais la dernière était que Christ, notre Seigneur, est déjà revenu sur la terre. Non, tant que frère Branham était sur terre, parce que le Seigneur était sur terre, alors que Jean-Baptiste effectuer son ministère. Ils disent que le Seigneur est revenu lors du vivant de frère Branham sur terre, parce que le Seigneur était sur terre quand Jean-Baptiste était sur terre. Non. J'aimerais qu'un tel frère qui croit cela vienne dans mon bureau, et vous pourrez vous imaginer ce qui lui sera dit. Est-ce que Jean-Baptiste, après qu'il ait effectué son ministère, oui, ne fut pas est-ce qu'on ne lui a pas coupé la tête? Est-ce que notre Seigneur, quand notre Seigneur mourut sur la croix, Jean-Baptiste était déjà depuis longtemps dans la gloire? Frère Branham ne doit pas être sur terre lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons être appelés à sortir et préparer pour être prêts quand le Seigneur reviendra. Et c'est ainsi que ce sujet est très important, parce que justement, il est lié, le retour du Seigneur est lié à la réalité divine, à la réalité. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, nous lisons à partir du verset 20, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. » 1 Corinthiens 15, verset 20. « Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Maintenant arrive. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen, amen, alléluia. Ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Celui qui continue à lire constatera que c'est seulement dans le temps de son royaume, de son règne, que le dernier adversaire sera placé sous son marchepied. C'est ainsi que c'est écrit au verset 25. Car il faut qu'il règne, comme roi, en allemand, comme roi, pas en tant que époux, mais comme roi, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça, c'est l'affaire de notre Seigneur. Il fera ces choses telles qu'il a promis et telles qu'il a planifiées. Notre responsabilité consiste simplement dans ce temps à prendre la parole du Seigneur au sérieux et ne pas seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Et comme notre Seigneur, et ça il n'y a pas longtemps, nous l'avons dit en insistant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, notre Seigneur a dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai ordonné. » Les amis de Dieu, d'être amis de Dieu, cela inclut que nous faisons ce qu'il nous dit pour être ses amis. C'est-à-dire que nous, ça consiste à faire ce qu'il nous dit. Dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15, verset 14. Tout ce que le Seigneur nous commande, c'est un commandement. Il a ordonné, il a donné l'ordre missionnaire, il a commandé, il a dit, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. C'est peut-être raison parce qu'il m'a été justement donné tout pouvoir, aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. Et celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Encore aujourd'hui, un baptême, un service de baptême peut avoir lieu. Le Seigneur, par sa parole, a dit ces choses qui appartiennent à l'ordre missionnaire, à la prédication de l'évangile. Et tous ceux qui acceptent ces choses dans la foi mettront aussi ces choses en pratique, pratiqueront ce que le Seigneur a commandé. Vous êtes mes amis quand, si vous faites ce que je vous commande, pas avant. Vous savez où est-ce que le pont peut être placé à cette parole. 2 Corinthiens, chapitre 6. Et si le Seigneur commande de sortir de tout, de nous séparer et de ne toucher à rien d'impur, ensuite, il veut nous agréer et nous recevoir. Nous accepter. Ce n'est pas qu'il n'y a rien que le Seigneur aurait dit. En disant, bon, si cela vous plaît, si vous le désirez, si vous le voulez, vous donnez-vous des tas de réflexion pour savoir si vous voulez vous séparer. Non, c'est un ordre. C'est un ordre. En allemand, il est dit, vous, mon peuple, sortez de mon lieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. En allemand, il est dit, ordonne, pas seulement dit le Seigneur, mais ordonne le Seigneur. Seulement celui qui met en pratique ses ordres seront appelés ses amis. Tous les autres continueront à faire ce qu'ils veulent. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous lisons ici à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le Seigneur dit dans le premier des commandements déjà, tu ne te feras pas d'idole et de représentation ou bien d'image taillée. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation, tu ne te feras pas de figure, rien de tout cela. De certains saints ou bien de crucifix, tu ne te feras pas tout ça. Ici, il est écrit encore, je le répète encore, au commencement déjà, à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Pas seulement un temple à Jérusalem. Nous sommes le temple du Dieu vivant, tel que c'est écrit ici. Nos corps sont un temple de Dieu. Et en tant qu'Église, nous sommes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, la tente d'assignation, de révélation de Dieu, là où Dieu lui-même, en tant que personne, se révèle. Il n'a aucun autre endroit sur terre pour se manifester lui-même et se révéler en dehors de son Église. L'Église est la tente d'assignation de Dieu. Il est dit, j'habiterai parmi vous et je marcherai parmi vous et je serai votre Dieu. Ça, c'est l'état du peuple de Dieu. Et vous serez mon peuple. Et parce qu'il peut marcher parmi nous, il peut aussi parler avec nous par sa parole. Et nous avons reconnu que ce n'est pas un homme qui a apporté un message dans notre génération, mais que c'est le Seigneur lui-même qui, par sa parole révélée, nous a parlé à tous et nous parle encore à tous. Au verset 17, c'est pourquoi, Parce que justement, nous sommes le temple du Dieu vivant et que Dieu habite et marche parmi nous. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit, non, en allemand, c'est ordonne le Seigneur. Ordonne le Seigneur. Ou bien alors commande le Seigneur. Ordonne. Ayez, s'il vous plaît, l'aimabilité ou bien la gentillesse de vous séparer, s'il vous plaît, je vous en supplie. Non, non, non. Si nous avons compris que l'appel à sortir est un ordre de l'heure, est l'ordre de l'heure, est le commandement du Seigneur, et que le Seigneur ordonne à l'Église de sortir de toutes les religions, de tout le mélange. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Sortez aussi du milieu d'eux. Séparez-vous. Ordonne. Commande le Seigneur. Ordonne le Seigneur. Êtes-vous sorti de tout le mélange? De partout? Est-ce que ça a été votre décision devant Dieu? Est-ce que vous avez compris que c'est un ordre, un commandement? Est-ce que le Seigneur a pu parler avec vous? Est-ce qu'il vous a appelé à sortir? Avez-vous suivi, obéi à son commandement? Avez-vous laissé tout derrière vous? Et vous ne pouvez plus regarder non plus en arrière. Tous nous savons, nous venons de différentes églises et églises libres. Tous mes parents et tout ça appartenaient à l'église luthérienne. Mon grand-père portait encore le nom de Hermann Frank August, celui qui avait écrit, qui avait fait l'introduction de la Bible de Luther. Luther, le nom de celui qui avait écrit, qui avait fait l'introduction de la Bible de Luther. Et le temps fut arrivé alors où mon grand-père a expérimenté une conversion à Christ et a pu se délivrer de tout cela. Et c'est ainsi que pas à pas, à l'intérieur de la famille, Dieu a fait grâce. De l'église luthérienne, il est passé à l'église baptiste. De l'église baptiste, il est passé à la communauté évangélique. Et de l'église évangélique, il est passé à l'église pentecôtiste. Et c'est ainsi qu'il a été conduit spirituellement de plus en plus, profondément. Et quand je pense avec grande joie, alors qu'en 1959, ici, sur la Corécom, au numéro 18, j'avais fait jouer une prédication de frère Branham et mon père qui prêchait aussi la parole, mon père avait écouté à l'époque pour la première fois en 59 frère Branham parler de la divinité et du baptême d'eau. Et sa réponse a été « Oh, ça, si cela est écrit dans la Bible comme ça, tel que je viens de l'entendre, alors cela est vrai et alors cela est valable, alors nous, est valable aussi pour moi. » Et lors du premier baptême qui a eu lieu ici, sur la Gerberstrasse, sur la rue Gerber, j'ai eu la grâce de baptiser mon père et ma mère, moi-même, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole du Seigneur doit d'abord être reçue, doit être crue, avant qu'elle nous soit révélée. Il faut qu'on l'ait acceptée, respectée, crue et reçue. Celui qui ne la croit pas, qui ne la respecte pas, qui ne la reçoit pas, elle ne lui sera jamais révélée. Celui qui la croit, alors à ce moment-là, elle pourra lui être révélée. Pensons à cette parole. Ordonne le Seigneur. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ici, c'est le Seigneur lui-même qui ordonne de nous séparer et de ne toucher à rien d'impur. C'est ainsi, comme il est dit ici, qu'il nous recevra. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu veut marcher parmi nous, habiter parmi nous, comme c'est écrit aussi dans 1 Timothée chapitre 3. L'Église est le pilier et l'appui de la vérité, la colonne. Et nous croyons que Dieu s'est manifesté dans la chair, a été justifié en esprit. Et nous croyons chaque parole, chaque révélation de Dieu telle qu'elle a eu lieu. Disons encore le verset 18 de 2 Corinthiens 6, le verset 18, et ensuite dans le chapitre 7, le premier verset. Donc le verset 18 de 2 Corinthiens 6. Je serai pour vous un père. et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Après que nous ayons entendu la parole et que nous soyons sortis et que nous ayons compris que c'est l'ordre de l'heure, le commandement de l'heure, tel que c'est écrit ici, ordonne à le Seigneur. Pas seulement dit le Seigneur, mais ordonne à le Seigneur. Ce qu'il dit est un ordre. Il dit ne touchez pas à ce qui est impur, c'est un ordre. Je vous accueillerai. Dieu ne peut pas se lier avec un mélange. Dieu est seulement dans sa pure parole. Et c'est seulement dans sa parole pure que nous pourrons le rencontrer et qu'il pourra nous accueillir. Ensuite, au chapitre 7 maintenant, chapitre 7. Verset 1, 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de toute souillure de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, ne pas faire de compromis. Je pense ici à mon vieil ami à Berlin, Lou Jean Bird, qui à Bandau avait caché ce criminel de guerre, l'un de mes amis américains, et il disait toujours de nouveau, frère Frank, depuis que j'étais entendu toute la première fois déjà, je savais que tu n'es pas un homme qui peut faire des compromis. Et il a aussi toujours répété cette parole. Oui, tu suis le Seigneur sur le droit chemin, mais on ne peut pas suivre le chemin, le Seigneur, de manière différente. C'est seulement sur le droit chemin qu'on peut suivre le Seigneur, tel qu'il est écrit. Suivez le Seigneur sur tout son chemin. Et tout ce que le Seigneur a enseigné, nous le croyons et nous le mettons en pratique. Dans Hébreux, le chapitre 6, nous avons encore quelques paroles. Hébreux, le chapitre 6, ici, nous lisons à partir du verset 13. Hébreux, chapitre 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, donc pas seulement qu'il ait donné la promesse comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 7, ayant cette promesse, mais nous devons comprendre que quand Dieu fait une promesse, il jure de l'accomplir. Il donne la garantie à celui à qui il a fait la promesse, qu'il accomplira. Il lui donne la garantie. Abraham croyait Dieu. Et particulièrement après que le Seigneur lui avait donné cette promesse et l'avait lié à, comme c'est écrit ici, un serment. Qu'est-ce qu'Abraham pouvait faire d'autre que de tout son cœur croire que ce que Dieu lui a promis, il l'accomplira. Lisons encore une fois le verset 13. Ensuite, nous continuons dans le verset 14. Hébreux 6, verset 13, encore une fois. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est de cette, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Persévérer jusqu'à la fin, cela peut avoir lieu pendant la nuit. Dieu avait donné déjà la première promesse à Abraham alors qu'il fut. Et le moment vint où le Seigneur a dit, après une année, en ce temps, je reviendrai à toi. Ensuite, ta femme recevra le fils promis. Bien-aimés frères et sœurs, ici est ancrée notre foi. Dieu n'a pas seulement donné des promesses. Il l'a lié cette promesse à une obligation de l'accomplir de sa part. Il s'est obligé lui-même à accomplir ce qu'il a promis. Est-ce que toi, tu as un souci de la, pour que Dieu a promis? Tu n'as pas besoin de te soucier pour l'accomplissement de la promesse. Dieu lui-même, il a pris toute la responsabilité de l'accomplir. C'est lui qui est responsable de chaque promesse qu'il a faite. Il est responsable de son accomplissement. Et il a garanti à Abraham et à toute sa descendance. Notre part consiste seulement à ce que de croire. Consiste à croire Dieu tel qu'Abraham a cru Dieu et à obéir à Dieu tel qu'Abraham a obéi à Dieu. Et d'exercer la patience et de persévérer jusqu'à que nous verrons l'accomplissement. Il est écrit ici que parce qu'il a persévéré, il obtient ce qu'il avait été promis. Ensuite, il est écrit ici, au verset 17 d'Hébreux chapitre 6, c'est pour cette raison, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, de son dessein, intervint par un serment. C'est porté garant. Est-ce que nous ne devrions pas, lors d'une telle parole, nous lever tous? Est-ce que nous ne devrions pas comprendre ce que Dieu nous dit ici et nous a dit ici? Pas seulement à Abraham, mais l'héritier de Dieu, tel qu'il est écrit ici, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Pas seulement à Abraham donner la promesse et jurer par lui-même et jurer à Abraham qu'il l'accomplira, mais aussi à nous, la semence, la descendance spirituelle d'Abraham. S'il vous plaît, levons-nous. Je vais relire encore ce verset. Levons-nous. Hébreux, chapitre 6. S'il vous plaît, acceptez-le. Acceptez. Retrouvez-vous ici dans le royaume de Dieu. Trouvez votre place dans le royaume de Dieu, dans la parole de Dieu. Reconnaissez le jour, l'heure et le message que Dieu nous a accordé. Le verset 17 de Hébreux 6. C'est pourquoi peut-être que nous devions aussi lire le verset 16 avec le verset 17 pour que nous ayons le contexte et que nous puissions mieux le comprendre. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Garantie. Personne peut donc venir et contredire ce que Dieu a dit. Ce n'est pas possible, pas devant Dieu. Ensuite, verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité, ça veut dire on ne peut pas changer sa parole, l'immutabilité l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. Grand Dieu, nous prions maintenant. Je te remercie avec toute ton Église en cet endroit pour de telles paroles de Dieu. Oh, je te remercie parce que nous sommes héritiers de Dieu et que toutes les promesses de Dieu sont oui, amen. Bénis ton peuple appelé à sortir, l'Église. Bénis et révèle nous ces choses. Je te remercie pour ta parole sainte, révélée, vivante. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. À ton merveilleux nom de Jésus. Alléluia.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Seulement encore la parole merveilleuse de 2 Corinthiens, le premier chapitre, où il nous est représenté devant les yeux que le Seigneur a fait des promesses et que lui-même il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lisons de 2 Corinthiens le premier chapitre à partir du verset 17. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non, de sorte qu'il y a en moi le oui ou le non. Et maintenant le verset 18, 2 Corinthiens 1, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, en allemand aussi vrai que Dieu s'est porté garant, est fidèle. Que la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. N'est pas une fois comme ça et ensuite différente. Non. Nous pourrons continuer à lire au verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été non plus oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Maintenant arrive le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Pas sans nous, mais avec nous et par nous. Telles que toutes les promesses se sont accomplis dans le Rédempteur. Toutes les promesses qui faisaient mention de lui, c'est ainsi que toutes les promesses qui se réfèrent aux rachetés s'accomplissent en eux. Je relis encore le verset 20 et le verset 21. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Oh, nous avons besoin de cette liaison personnelle avec Dieu. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Chaque promesse de Dieu s'accomplira en nous et par nous. Le verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cette raison justement que nous allons encore plus profondément prier de tout notre cœur pour que la sainte onction se repose sur nous et pas seulement l'onction, mais que nous soyons scellés pour le jour du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu nous a affermis en Christ et il est aussi celui qui nous a accordé, qui nous accorde la sainte onction de laquelle Jean écrit, tel que l'onction vous enseigne, c'est ainsi que cela est juste devant Dieu. Le verset 22 de 2 Corinthiens 1, le verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Ce sont des paroles, les paroles de Dieu, des paroles de vie. Et bien aimés frères et sœurs, disons cela encore une fois. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu dans toutes ces paroles. Le Seigneur qui a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le même Seigneur nous a ouvert l'intelligence, la compréhension pour les Écritures, nous a montré que ceci est l'heure de l'appel à sortir et de l'accomplissement des paroles qu'il a prononcées, disant, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur, ordonne le Seigneur, ne touchez à rien d'impur. Disons-le avec humilité devant le Seigneur encore une fois. Tous les autres mépriseront ce que Dieu a promis pour ce temps. Ils se remueront la tête et diront, oh, il y a un groupe là-bas. Ils se rassemblent une fois par mois. Ils viennent de loin, de partout, des pays voisins. Et ils suivent le docteur, l'enseignement d'un homme des États-Unis, etc. Tout cela n'est pas correct. Nous suivons que Jésus-Christ. Et nous suivons la parole révélée de Dieu. Et ça aussi, nous avons eu à le dire et nous avons eu à l'écrire. Notre Seigneur a dit, suivez-moi. Jamais Paul ou bien Pierre ont dit, suivez-moi. Ou bien suivez-nous. Nous suivons le Seigneur. Mais nous ne méprisons pas ce que Dieu a promis. Mais nous le recevons, nous l'acceptons. Nous le croyons. Et nous croyons que le même Seigneur qui a envoyé et appelé tous les prophètes et les apôtres et les a envoyés, tels que Jean sur l'île de Patmos avait reçu toutes ces choses révélées par Dieu. Il y fut ravi en esprit. Il a dû écrire en parabole, en image. Il a dû écrire tout ce qu'il voyait et tout ce qui s'est passé. Et voilà que Dieu nous a aussi par le même esprit révélé toutes ces choses. Nous n'avons plus besoin d'aller sur l'île de Patmos ou alors d'aller à Jérusalem ou d'aller à Jeffersonville, d'entreprendre un voyage dans ces différents endroits. Nous avons besoin de nous retrouver dans la présence directe de Dieu, dans la présence de Dieu, et d'écouter la sainte parole et de la croire et de la recevoir pour qu'elle nous soit révélée par le Saint-Esprit. C'est ainsi, de cette manière, que nous pourrons croire tous la même chose parce que nous sommes conduits par le même esprit dans la parole de la vérité. Résumons aujourd'hui de quoi il s'agit. Le Seigneur a donné les promesses, a donné la promesse, je vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre avec moi. Et le retour du Seigneur, à ce retour du Seigneur, il y a un appel qui retentit. Au retour du Seigneur, cet appel précède le retour du Seigneur. Voici l'époux, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et ensuite, l'appel à sortir, le message de l'appel à sortir a lieu, l'appel à se séparer, à passer par la correction, à revenir au fondement antique, un Seigneur, un baptême, une foi, tel que c'était au commencement, enseigné et pratiqué, c'est ainsi que c'est maintenant à la fin. Alors que je lisais un peu dans l'histoire de l'Église que l'erreur, le baptême, le faux baptême restera toujours faux et que c'est seulement dans l'année 37 que, alors que Constantin, sur son lit de mort, a dit que quelqu'un serait venu et que réellement l'eau a aspergé l'eau sur le front et a dit au nom du Père, au nom du Fils, au Saint-Esprit, trois fois aspergé et de nouveau a toujours dit au nom du Père, au nom du Fils, au Saint-Esprit. C'était dans l'histoire de l'Église qui exposait donc qu'il y avait eu des faux baptêmes. Si c'était les autres, je ne sais pas. Mais il est dit que dans les trois premiers siècles, le baptême était correct. Et c'est seulement après cette invention-là de la bouche de Constantin, que ce faux baptême a existé et qu'ils se sont éloignés de la prédication originale des apôtres. Le baptême, donc la foi, le baptême d'eau et ensuite le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont éloignés de cette vérité. Et le Seigneur, dans ce temps, nous ramène à ces choses. Vous, mon peuple, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Dieu le Seigneur, qui nous accorde à tous sa grâce pour prendre toutes ces choses au sérieux, pour prendre au sérieux tout ce que le Seigneur a dit, oui, à dire. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui lui-même a porté serment, a juré par lui-même, pas seulement qu'il aurait fait des promesses à Abraham et qu'il aurait juré pour Abraham, mais ce serment est valable pour tous les fils et les filles de Dieu, pour toute la descendance spirituelle d'Abraham. Dieu a juré et s'est porté garant d'accomplir ce qu'il a promis, ce qu'il leur a promis. Nous voulons de tout notre cœur croire et être dans une attente profonde dans notre cœur et être continuellement dans la prière et dans l'attente, sachant que Dieu ne vient jamais trop tard et que aussi dans notre temps, il l'achèvera son dessein de la rédemption. Et que, par sa grâce, nous prendrons part à cet achèvement. Je suis reconnaissant pour chaque parole de Dieu, reconnaissant de ce que le Seigneur, aujourd'hui, d'une manière particulière, a parlé avec nous tous. J'ai encore une demande. Si quelqu'un a le souhait d'être baptisé d'eau, nous avons la possibilité ici. Il est encore écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera jugé. La parole de Dieu demeure pour toujours juste. Elle reste pour toujours notre règle à suivre et le fondement de notre foi. Lui, le seul vrai Dieu, en dehors duquel il n'y a pas de Dieu, lui qui personnellement, en Jésus-Christ, pour notre salut, s'est révélé. À lui soit l'honneur maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur. Nous chantons encore ce cantique tel que je suis, sans rien de moi. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent et tous ceux qui regardent, qui voient. Bien-aimés frères et sœurs, chers frères et sœurs, si ces choses vous ont été révélées personnellement et que cela s'est accompli et s'accomplira, celui qui croit en moi, comme le disent les Écritures, nous croyons à notre Seigneur dans chaque liaison, en chaque point. Comme la Bible le dit, alors dites Amen.
Amen.
Amen. Amen. La parole de Dieu est vraiment notre lumière sur notre sentier. Nous allons apporter toutes les prières au Seigneur aujourd'hui. Il y a des cas de maladie très grave, très grave. Il y a une mère qui prie pour son fils, ou pour lui, humainement, il n'y a plus d'espoir, que Dieu puisse, en cet endroit, aujourd'hui, exaucer nos prières. Et je n'ai pas le droit d'oublier de dire que j'ai visité notre frère Rousse, notre bien-aimé frère, et il vous salue tous, toute l'Église, très fraternellement, très cordialement. Nous sommes liés dans l'amour de Dieu, les uns les autres, et nous le restons pour toujours. Aujourd'hui, nous allons prier pour toutes les requêtes et dans la foi, apporter tout au Seigneur, que ce soit pour toi personnellement, que ce soit pour des connaissances, pour des parents, pour la famille. Aujourd'hui, nous allons croire et ensemble, nous allons prier et ensemble expérimenter ces choses. Et aussi pour tous ceux qui ont un problème spirituel, peut-être sont attachés à des choses ou bien liés à des choses. Le Seigneur aujourd'hui nous a accordé un jour particulier et ici s'accomplit cette parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et nous avons entendu sa voix, et nous avons cru sa parole, nous avons le droit à son accomplissement. Chaque promesse que Dieu nous a accordée. Nous courbons nos têtes dans la prière. Et je voudrais demander qui a une requête particulière, vraiment, vraiment très particulière. Levez rapidement les mains. Oh, il y en a plusieurs. Le Seigneur, dans chaque réunion dans laquelle il était autrefois sur terre, dans chaque réunion qu'il a tenue, il n'y a pas une seule personne qui l'aurait renvoyé comme ça. Il a secouru chaque. Il a accordé la guérison là où c'était nécessaire. La délivrance où c'était nécessaire. Le salut où c'était nécessaire. Et il marche encore aujourd'hui parmi nous pour exaucer nos prières et pour intervenir en nous accordant nos requêtes, selon nos requêtes. Nous voulons chanter simplement, croire seulement, et ensuite nous allons ensemble prier. Chantons maintenant, crois seulement, crois seulement. Grand Dieu, je mets ma main droite sur ce verset biblique dans 1 Corinthiens, le premier chapitre. Dans 2 Corinthiens, le premier chapitre. Que toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Et ensemble, nous pensons aux paroles que tu n'as pas seulement promis tout à ta descendance, mais que tu t'es porté garant de les accomplir en te tenant toi-même sous un serment, pour qu'aujourd'hui, en cet endroit et dans le monde entier, nous puissions savoir que il n'y a aucune promesse que tu aies besoin de reprendre, mais chaque promesse, tu l'accomplis. Aussi la promesse, voici, je suis auprès de vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aussi cette promesse, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, là je suis parmi eux. Aussi la promesse, les choses, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Aujourd'hui, nous le croyons. Aujourd'hui, nous acceptons. Nous te prenons ta parole et nous te demandons que tu puisses accorder, changer tout, les situations, délivrer les liés, sauver les perdus, guérir les malades par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, car c'est ainsi que c'est écrit, l'Esprit de Dieu, du Seigneur, se repose sur moi, aussi sur nous, aujourd'hui, dans cette heure, pour prononcer la délivrance aux prisonniers et établir et annoncer l'année de jubilé, l'année de délivrance, où nous revenons à tout ce qui nous appartient. Nous rentrons en possession et que tous reviennent en possession de tout ce que tu as accompli pour eux et que nous soyons bénis. Ô grand Dieu, ces heures, tu nous les as accordées d'éternité en éternité. Et nous te remercions de tout notre cœur de ce que nous pouvons nous rassembler sans être dérangés pour prêcher ta parole et pour de tout notre cœur te remercier, car tu as parlé à nous tous. Nous avons compris que nous avons compris ce que tu nous as envoyé, ce que tu nous as ordonné, ce que tu nous as commandé. Que tout ce qui n'est pas en accord avec toi, avec ta parole, avec tes promesses, avec ton dessein, avec ta résolution, tout ce qui n'est pas en accord, que nous puissions laisser tout cela derrière nous et ne toucher à rien de pur et faire un nouveau commencement avec, pour pouvoir faire un nouveau commencement avec toi, si c'était le cas. Car tu es le premier et tu es le dernier. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour la victoire de Golgotha, qui est aussi notre victoire, selon la parole de l'Écriture. Notre foi est la victoire qui a déjà vaincu le monde. Et la foi qui aujourd'hui vient de la prédication de la parole, produira l'effet des choses que nous avons exprimées dans la prière devant le trône de la grâce. La foi produira ces choses et nous en rendrons, nous entendrons les témoignages de ce que Dieu a fait aujourd'hui, a fait aujourd'hui. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela et nous louons ensemble la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te remercions pour le dernier appel, pour le message que tu nous as accordé avant ton retour. Ta parole révélée. Nous te remercions pour tout. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen.
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 Je voudrais encore demander, est-ce que quelqu'un voudrait se laisser baptiser? Avons-nous des personnes qui veulent se laisser baptiser? Sinon, nous attendrons jusqu'à la dernière fois sûrement qu'il y en a qui seront présents. Asseyez-vous, nous demandons aux deux sœurs de nous chanter un cantique si elles en ont un. Pensez à moi dans vos prières le week-end qui arrive. La réunion aura lieu à Rome, ensuite au fin fond de l'Est, par Bangkok, Phnom Penh, Ho Chi Minh City, jusqu'au Vietnam et ensuite aux Philippines. Et Dieu voulant, nous serons ensuite pour le dernier week-end revenus et nous allons aussi, Dieu voulant, être samedi en Autriche et dimanche à Zurich. Pensez à moi dans vos prières.
Auf Golgathas Hügel der Sturm weint sein Kreuz, an welchem ein Sterbender hing. Es war ja der Heiland, der damals bereits für alle den Leidensweg ging. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freud. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünd, und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Sie wussten es nicht, wen sie schlugen ans Kreuz. O Vater, vergib, rief er. Kreuz ist der Grund meiner Freud. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünd, und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihm alle Zeit. Doch du kennst das Kreuz und auch den, der dort starb. Geh nicht an dem Kreuze vorbei. Er will nur dein Herz, lass du ihn herein. Er macht auch dein Leben ganz neu. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freude. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünd, und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freude. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünd, und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit.
Amen.
Amen, Amen, Amen.
Halleluja.
Halleluja. Honneur et gloire soit à notre Seigneur. Recevez des salutations dans tous les pays voisins. Recevez des salutations. Ramenez des salutations à tous nos frères, à toutes nos sœurs, dans tous les peuples, les langues et les nations. Salutations à toute l'Afrique. Salutations dans le monde entier. Salutations à tous ceux qui aiment l'avènement de notre Seigneur. Salutations à tous ceux qui répondent à l'appel. J'ai appris qu'il y a une sœur de Londres qui veut se laisser baptiser. J'ai la demande que si c'est possible, à Londres, il y a une église qui croit bibliquement et qui baptise bibliquement. Peut-être que ce serait à conseiller aussi dans l'église locale de se sentir à la maison. L'assemblée locale, c'est biblique. C'est biblique. Seulement moi, j'ai pas le droit d'en fonder. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas exister. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas exister. Le Seigneur utilise aussi des frères dans l'assemblée locale qui servent Dieu. Nous, mon ministère, c'est d'aller de pays en pays et de ville en ville. Et dans aucune ville, j'ai tenu plus de 3 réunions, au moins une ou deux, et ensuite je continue dans une autre ville. Mais le reste, ce sont tous les frères qui aussi ont part à la prédication de la parole de l'heure, qui de la même manière distribuent la nourriture. Car dans Matthieu 24, Matthieu 24 ne parle pas seulement d'un serviteur, mais parle aussi de tous les serviteurs, quand il est dit les gens de sa maison. Donc c'est tous les prédicateurs, tous les serviteurs dans la maison de Dieu qui aussi reçoivent la nourriture et la distribuent. De la même manière, c'est ainsi qu'ils ont part à la prédication de la parole. Pensez à moi encore une fois dans vos prières, et Dieu voulant, nous nous retrouverons au commencement du mois de novembre. Si quelqu'un veut prendre part au voyage d'Israël, qu'il puisse le laisser savoir à la sœur Fleck. Et maintenant, je demande au frère Müller de venir devant et de prier. Nous nous levons pour la prière. Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes de tout notre cœur si reconnaissants pour ta sainte et précieuse parole que nous avons reçue dans notre cœur. Et je te demande, bien-aimé Seigneur, qu'elle nous soit conservée dans le cœur pour qu'elle puisse produire l'effet pour lequel tu nous l'as donné. Nous voulons louer ton Saint-Nom et élever ton Saint-Nom. Oh, je te loue pour ta grâce de ce que nous pouvons croire chaque promesse qui par toi sont devenues Amen. Amen. Nous voulons te faire confiance comme un enfant fait confiance à ses parents. Nous voulons saisir tout ce qui nous appartient, le revendiquer et l'expérimenter. Je te redemande, bénis ton Église, bénis ton épouse, bénis ta parole, aussi les jeunes, que tu puisses te glorifier et exaucer les prières, glorifier ton Saint-Nom. Alléluia. Je te loue et je t'adore. Je voudrais aussi te remettre mon frère, alors qu'il se remettra en voyage missionnaire. Garde-le, fortifie-le de la plénitude de ta grâce. Sois avec lui, confirme ta parole par lui. À toi sur la louange et la gloire et l'adoration dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Honneur, gloire et adoration. Honneur, gloire et adoration. Encore une fois. Et que tout le peuple dise Amen. Que tout le peuple dise, il nous a bénis. Et nous pouvons repartir dans la bénédiction. Encore une fois, recevez des salutations dans tous les peuples, les langues et les nations. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Et soit avec vous. Parfois, des noms sont mentionnés et d'autres ne sont pas mentionnés. Et ensuite, il y a parfois de la tristesse dans les frères. Ce qui serait mieux, c'est de ne mentionner aucun nom et de dire en général à tous que le Seigneur, le Dieu fidèle, soit avec vous tous. Il laisse luire sa face sur nous et nous bénisse et nous accorde sa paix et sa bénédiction jusqu'à la prochaine fois. Encore une fois, honneur, gloire et adoration.
Amen.
Amen. Il nous a bénis. Frère Schmitt nous laisse dire que demain, il n'y aura pas de réunion de frères. Soyez remis entre la grâce du Seigneur. Saluez-vous tous. Amen. Je vous bénisse.